Dans cette maison-ci, la vraie, notre amour s'embrase encore certains soirs, lorsque le sourire de Louis pétille d'étincelles qui font chatoyer les murs de notre chambre écarlate. Mais le plus souvent, il me tourne le dos et s'endort, recroquevillé sur ses songes, me laissant libre de m'envoler vers le grenier mauve lilas, celui de mes désirs inavoués et inavouables, ou de trotter vers la cuisine dorée, celle où je me concocte un avenir étincelant comme les yeux d'une pouliche, ou de plonger dans les eaux troubles de la salle de bain, aussi noire que de l'encre de pieuvre, où les cauchemars font couler mes yeux avec un doux délice. Un délice que Louis ne comprendrait probablement pas s'il déambulait avec moi dans mes songes, ou si je ne raconte rien lorsque revient le jour. D'entendre un extrait du roman Le Grand Galop de Marie-Noëlle Gagnon, livre paru à l'automne 2015 qui a valu à son auteur le prix Jacques Poirier. Marie-Noëlle Gagnon est une explosive rouquine dotée d'un impressionnant bagage, qu'il soit question de voyage, de lecture ou d'années passées à éplucher des manuscrits à titre d'éditrice littéraire chez Québec Amérique. En 2009, elle publiait son premier roman L'Hiver retrouvé aux éditions Triptyque, puis en 2013, un croquable album jeunesse aux éditions Panda. Petit Panda préfère le jaune. Dans ses trois œuvres de fiction, Marie-Noëlle met en scène des intimités magnifiques, des rêves comme des ballons gonflés à l'hélium dont elle tiendrait solidement les ficelles, pour reprendre ses mots. Dans cet épisode de Faut bien commencer quelque part, on tréfouille dans ses plus lointaines archives, son journal et sa mémoire. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Myriam.
Bienvenue à l'enregistrement de Faut bien commencer quelque part, de cette balado enregistrée dans le café chez l'éditeur, le café des éditions Québec-Amérique. Aujourd'hui, on va parler avec Marie-Noëlle Gagnon de textes d'imaginaire, de l'imagination comme personnage et des romans comme exutoire au rêve. C'est une tendance qu'elle a prise assez jeune, ma foi. En témoigne cet extrait de journal intime qu'elle va nous lire à l'instant.
Donc, je vous lis quelques extraits. En fait, une série de pages qui débute le samedi 10 octobre 1991, si je ne m'abuse, 1991. Donc, ça s'intitule parce que, dans ce cas-ci, j'ai donné un titre à l'entrée de journal. « Mon rêve que je souhaite ». Moi, ma famille et Olivier, ce qui était l'amour de ma vie à l'époque, on faisait une randonnée pédestre quand tout à coup, on est arrivé devant un escalier très haut. On a demandé ce qu'il y avait en haut. Un homme nous a dit que personne n'était jamais allé. On s'est mis à monter. Après une demi-heure, on a vu une superbe grande maison mauve et blanche. Elle avait 4 étages et mesurait 20 mètres de largeur. On est entré au rez-de-chaussée. Une fille vint nous dire qu'on avait droit à remplir 3 gros coffres, 3 moyens coffres et 3 petits coffres de toutes les richesses de la maison. En bas, c'était les cuisines, la salle à manger. Mélie, la servante, vint nous dire qu'on avait droit à 3 vœux chacun. J'étais celle qui fit le premier vœu. J'ai souhaité que je puisse rapetisser les choses et les faire redevenir normales. Je remplis mon premier gros coffre en rapetissant tout. Je le remplis de gâteaux, de mes plats préférés, de bonbons, de toutes sortes de desserts et de superbes vaisselles. Moi et Olivier, on est montés au deuxième étage où il y avait les salons et les serres. Je remplis mon deuxième coffre de plantes et de livres et de cassettes. Au troisième, il y avait tout le linge et les choses. Je remplis mon troisième coffre de belles robes, de linge de toutes sortes et de costumes. Je le remplis aussi de caméras, radios, lampes et jouets. Moi et Olivier, on monta au quatrième où il y avait les chambres. Aux chambres, il y avait des bijoux, des parfums, des cadres, un lit et toutes sortes d'autres choses. Je descendis et je sortis en arrière où je vis le plus beau jardin du monde. Il y avait la mer juste après le jardin. Je souhaite cela. 24 octobre 1991. Je n'aime plus Olivier. J'aime Christian à la folie et lui aussi. On a été se cacher avec Marie-Ève et son chum, Gilles Olivier, puis on s'est donné un bec sur la bouche. Je capote, je l'aime. 23 novembre 1991. Mon cher journal, j'ai 5 bonnes nouvelles à te confier. La première, c'est que j'ai décidé de te baptiser Bottine. Tu aimes ça? J'espère. La deuxième, c'est que mon grand-oncle a eu une chienne. Et s'il aime le nom Bottine, ou Mélasse, c'est comme ça qu'elle va s'appeler. Tu te rends compte, Bottine? Tu dois être fière qu'une chienne porte le même nom que toi. Wow! Le pire reste à venir, tu en auras plein tes pages. La troisième, c'est que cet été 1991, j'ai fumé. Tu imagines la bêtise. Ce n'est pas tout. Du exporté, le plus fort tabac, j'ai capoté. Le quatrième, le pire du pire Bottine, c'est qu'avec Christian et Marie-Ève Larrain qui nous regardaient, j'ai necké. Oui, oui, Bottine, pour vrai, langue à langue, à 9 ans et demi, tu imagines. Le pire, c'est que j'ai cassé depuis 3 semaines. Le cinquième, c'est qu'il m'est arrivé que l'année passée, j'ai rêvé à une prairie qui était toujours belle. Imagine, Bottine, elle existe pour vrai, en arrière de mon école. Aussi, proche de là, il y a un arbre aux fleurs mauves et aux fruits rouges. J'ai aussi rêvé à ça. C'est super! Bonne soirée, Bottine! 24 novembre 1991. Ma chère Bottine, aujourd'hui, tout va mal. Je m'ennuie. S'ennuyer, c'est une des pires choses de la vie. En effet, les pires choses de la vie, c'est mourir, être malade et s'ennuyer. Toi, Bottine, tu dois t'ennuyer quand tu restes toute seule. Je t'aide en écoutant Julie Masse. Tu dois penser que c'est désennuyant d'écouter sa chanteuse préférée. Oui, c'est vrai, mais pas toute la journée. Bonne nuit, Bottine. En terminant, un petit texte de journal qui s'intitule « Quand je serai grande ». Quand je serai grande, je veux devenir ingénieure en électronique. Je veux avoir bien des belles choses et un beau mari. Je veux une fille, elle s'appellerait Marianne. Si j'ai un garçon, il s'appellerait Alexandre.
Tu te projetais beaucoup dans l'avenir, en fait, en tant qu'enfant.
Je pense qu'enfant, j'étais très, très influencée par l'espèce de portrait de l'avenir adressé qui allait avec, avec la vie amoureuse. Donc, l'amoureux, c'était central. Il fallait un amoureux ou un beau mari, comme je l'exige dans mon journal. Un beau mari, un emploi, un bel emploi qui souvent était assez... désincarné à mes yeux. Là, j'écrivais que je voulais être ingénieur en électronique. Manifestement, je n'avais aucune espèce d'idée de ce que pouvait être un ingénieur en électronique. Et la maison, la belle maison. Donc, tout ça participait d'une volonté fantasmée de l'avenir assez cliché, finalement, de l'avenir idéal.
Le fantasmé est resté présent aussi dans ton écriture, dans l'univers de tes personnages, dans leur quête, dans Le Grand Galop. On peut aller jusqu'à dire que l'imagination est le personnage principal ou un des personnages principaux, à tout le moins. Le personnage, la narratrice réécrit constamment le réel et nous fait osciller entre ce qui est vrai et ce qui est fantasmé. Et on ne sait jamais, en fait, en tant que lecteur, on n'est pas certain de la version qui est la plus ancrée dans la réalité. Est-ce que ton personnage le sait, tu penses? Est-ce que toi, tu le sais?
Moi, je le sais, je pense. J'ai brouillé les pistes un peu volontairement parce que, finalement, tout ça était possible. En l'écrivant, moi, j'avais quand même l'impression que quand on revient au point de rupture entre ce qui a été... là où l'imagination a pris le relais, finalement, quand on revient en arrière, pour moi, on reprenait le fil
du réel.
Mais avant tout, ce roman-là a débuté avec l'idée de parler d'une rupture amoureuse, parce que j'ai constaté à une époque où moi-même je vivais une séparation, que ce que je trouvais encore plus cruel que la séparation elle-même, c'était de voir s'effondrer tout ce que j'avais imaginé autour de mon couple, puis de l'avenir de mon couple. Puis ça, je trouvais ça encore plus tragique, finalement. C'est vraiment très, très lié pour moi, cette façon qu'on a de se projeter dans le futur en l'imaginant, et de la même façon, cette façon qu'on a de réécrire notre propre histoire en s'en souvenant. À chaque fois qu'on a un souvenir, on le réinvente au fur et à mesure. Des gens avec qui on a grandi ou avec qui on partage des souvenirs vont pas avoir la même version du passé. Donc ça, pour moi aussi, c'est une autre façon d'imaginer nos propres vies à l'endroit, à l'envers. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Puis même encore plus, là, dans le Grand Galop, c'était l'imagination qui était au centre, mais ça m'a mis sur la piste du souvenir. Puis c'est vraiment là que j'ai envie d'aller pour un prochain roman, parce que ça m'a fait réaliser à quel point la fiction était à l'œuvre dans nos souvenirs également.
Ouais, on y reviendra un petit peu plus tard à ce projet de roman que tu berces en ce moment et qui occupe les moments que tu voles au quotidien. Je voulais te demander aussi s'il y avait des gens qui écrivaient autour de toi quand tu étais petite, parce que tu as quand même, là, les gens n'auront pas d'image pour le faire, mais le journal duquel tu as tiré l'extrait a une solide centaine de pages et je me doute qu'il est un tome dans une longue saga. Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui écrivaient? Est-ce que tu avais des images de ce que ça voulait dire s'asseoir à une table pour écrire?
C'est une bonne question. En fait, ma mère tenait un journal. Pendant toute ma jeunesse, elle a tenu un journal. Moi-même, effectivement, ce journal-là, c'est le premier d'une longue série. Je l'ai reçu à Noël lorsque j'avais 9 ans. Puis j'ai tenu un journal assez régulièrement jusqu'à mes 20 ans environ. Donc, j'en ai plusieurs. Mais outre ma mère qui écrivait dans son journal, non, j'avais pas d'auteur ou d'écrivain, même du dimanche autour de moi. J'avais des lecteurs. Mes deux parents étaient des très grands lecteurs. Sans doute, mes personnages fétiches, par contre, mes personnages de fiction préférés, comme Cassiope de Michel Marino ou Anne de Lucy Maud Montgomery, sont des filles qui écrivaient. Donc, sans doute que ces personnages-là, qui sont devenus pour moi vraiment des modèles, m'ont certainement mis sur la piste de l'écriture, parce que depuis très longtemps, là encore, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire, je disais que je voulais écrire dans la vie. Donc, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps, mais je ne saurais pas dire exactement. Sans doute, ma mère aussi m'a beaucoup encouragée à écrire. J'ai écrit pour le plaisir beaucoup aussi. J'ai écrit un début de roman frisson que, à ma grande tristesse, j'ai perdu ou j'ai jeté. J'ai même essayé, à l'époque où je tripais fantastique, j'ai voulu écrire un roman fantastique. Je faisais les cartes, je trouvais les noms des lieux, des personnages. Ça se rendait jamais plus loin. J'étais incapable d'écrire ce genre littéraire-là que j'aimais pourtant profondément.
Comme quels auteurs?
Ah bien, Tolkien, bien sûr, qui était à la source de la découverte. Puis après, Guy Gavriel Kay, qui est l'auteur de fantasy que je continue à suivre encore aujourd'hui.
Qui est un des rares auteurs que je t'ai vu pourchasser pour une signature dans un salon
ouais,
du livre.
Ouais, vraiment. Mais ça, c'est quelque chose... c'est un auteur sur lequel je tripais quand j'avais 14-15 ans. Et c'est le seul auteur vraiment qui a traversé les époques. Je garde une affection pour cet auteur-là. Je trouve que...
Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces romans?
Bien, je pense qu'à un moment donné, peut-être avec mes études en littérature et autres raisons, je me suis vraiment distancée de ce goût-là de la littérature fantastique. Mais je pense que ce qui a sauvé Guy Gavriel Kay pour moi, c'était que le fantastique dans ses ouvrages de fantasy était assez léger. Et bon, c'est vraiment de la fantaisie historique, donc lui, sa marque de commerce, si on veut, c'est de partir de l'histoire médiévale d'un pays et d'en faire un roman en trafiquant, bien sûr, tous les noms, mais il part vraiment d'une prémisse historique pour nous raconter l'histoire médiévale de l'Espagne, de la Chine, du Portugal. Puis souvent, la touche fantastique dans ces romans, ça va être la créature mythologique propre à cette culture-là. Donc, j'y ai trouvé davantage mon compte en vieillissant qu'avec les sagas entièrement fantastiques de Tolkien, avec Elfes et Dragons. Et encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup.
Le matériau brut de l'histoire, avec grand ou petit H, qu'on transmue, transforme. N'ayons pas peur des mots, Marie-Noël, tout comme cet auteur qui l'inspire, est une alchimiste. Il y a loin du plomb à l'or. Un art savant, des années à rester penché sur sa table de laboratoire, à expérimenter avec différents genres littéraires, à chercher le dosage juste des ingrédients qui donneraient forme au style étincelant qu'on lui connaît aujourd'hui.
les inspirations. C'est important. Tu nous as parlé de Gabriel Kay, tu nous as parlé de Tolkien, tu nous as parlé de Simone de Montgomery un petit peu. Mais les premiers, les tout premiers livres que tu as lus par toi-même. D'abord, est-ce qu'on te faisait la lecture quand tu étais petite?
Oui, on me faisait la lecture. Mes deux parents avaient toujours un livre à la main, donc pour eux, c'était super important. Très, très jeune, ma mère me lisait des livres avant le dodo.
Puis, le premier que tu as lu par et pour toi-même?
Le premier que j'ai lu par et pour moi-même, un livre jeunesse, je ne saurais pas dire. Je me rappelle de Plaisir de chat, qui est un album, qui est un superbe album qui m'a vraiment inspirée pour mon album Petit Panda préfère le jaune. Ouais. Avec des petites phrases, le printemps est aussi doux que le poil des petits minous, qui m'a vraiment marquée, avec des superbes illustrations. Ferdinand le taureau, qui est un Disney,
ben oui.
Qui était mon préféré à l'époque. Et oui, j'ai fait une petite scène d'hystérie joyeuse quand j'ai vu qu'il allait être adapté au cinéma.
Et tu allais?
Non, j'ai pas osé encore. J'ai une relation très, très ambiguë avec ça parce que c'était vraiment mon histoire fétiche quand j'étais petite. Si on parle d'influence, mais là, c'est pas des influences de jeunesse, mais plus vieilles. Ouais. 100 ans de solitude, pour moi, ça a été une révélation très, très intense. Puis, dans 100 ans de solitude, il y a beaucoup, beaucoup de ça, ces espèces de scènes qui sont très dramatiques, mais en même temps très belles. C'est la finale, c'est la plus belle finale de roman que je pense que j'ai jamais lu. Les fourmis qui s'emparent du bébé. Ah ouais, spoiler alert, mais c'est que c'est extrêmement morbide, ça oui. aussi, mais c'est si beau, c'est si beau. Oui. Donc je pense que...
Fait que t'es plus une fan beaucoup. De belles fins de romans que de beaux débuts de romans que de bons incipits.
Ah oui, absolument, absolument. Pour moi, la fin peut tout changer. Je peux pardonner un début de roman un peu laborieux. Oui, parce que je pense pas... Ben, premièrement, j'ai pas le réflexe de lire la première page en librairie. Puis si je commence à lire, maintenant je me permets de pas lire jusqu'au bout, mais c'est sûr que je vais lire une bonne partie. Donc, un auteur peut très bien se rattraper d'un début que je juge un petit peu laborieux.
Mais la
finale, puis ça, je sais, c'est une tendance que j'ai eue moi dans mes romans. Souvent, c'est assez, ça se veut assez flamboyant parce que justement, j'aime finir mes lectures sur une note saisissante. Puis c'est pour ça que 100 ans de solitude, pour moi, reste vraiment un de mes livres préférés, si ce n'est pas mon livre préféré. Et je sais que c'est beaucoup à cause de cette finale-là qui m'a littéralement fait lever de ma chaise. C'est vraiment pas quelque chose... Je pense que ça ne m'est jamais arrivé. Mais en lisant les dernières phrases de 100 ans de solitude, je me suis levée.
J'ai décelé, peut-être que c'est dans l'œil de celui qui regarde, mais j'ai décelé des petites traces de surréalisme à l'avion dans ton roman. Est-ce que ce sont des lectures que tu as goûtées?
Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Dans le cas de Vian, ce que j'ai aimé, mais ça, c'est quelque chose que je maîtrise pas. Je pourrais pas aller là, mais j'ai goûté son humour, vraiment. Mm-hmm.
Bon, là, je vous lis un extrait du Grand Galop et je vous laisse juge. Il me faut votre plus grande cage à oiseaux. Pour un perroquet? Non, pour un oiseau qui est si laid et que j'aime tant qu'il en est magnifique, que je dois l'encager avant qu'il ait la mauvaise idée de s'envoler, de s'en aller. On s'entend, c'est pas du one-two punch à la Tigus et Timus, mais c'est tant mieux. Ça en est pas moins de l'humour délicieux. Bref, on reprend.
Est-ce que j'étais adolescente quand j'ai lu ça? Je sais plus trop. Début vingtaine, peut-être. Mais oui, ça a certainement participé à une espèce d'enchantement généralisé avec Gabriel Garcia Marquez et Alessandro Barco. Mm-hmm. Peut-être ma sainte trinité de surréalisme, réalisme magique. Mm-hmm. Puis ce qui m'a aidé aussi, on parlait de mes influences de fantasy, de ces lectures quand j'étais plus jeune. Puis ça a participé... cette période-là du cégep où j'ai voulu écrire un peu plus sérieusement, où j'ai été accompagnée par une espèce de petit groupe d'écriture parascolaire au cégep et où mon grand défi, c'était de trouver ma voix, trouver mon style. Puis ça, pour moi, ça a été assez laborieux. Ça a été vraiment du tâtonnement avant de commencer à trouver... trouver ce qui me convenait, finalement. Puis ça a été assez ardu, je dois dire, pour moi, de faire certains deuils, de dire, ben je ne pourrais pas écrire comme tel mm-hmm. auteur dont j'admire énormément le travail, le genre, le style, mais ce n'est pas à ma portée. Je peux pas écrire comme ça. Ça donne rien. Il faut vraiment que je trouve ma
ta
façon.
Ta propre couleur.
Ouais. Puis ça, ça a été difficile.
Mais c'est étonnant à quel point il y avait des ingrédients de ton imaginaire et que ça peut prendre du temps à y revenir. Parce que c'est... veux pas dans un journal, ça finit par être un personnage quand même. L'espèce de quête de ton personnage qui, dans ton journal, veut impressionner son journal. Mais, tu sais, t'as rendu compte, Bottine?
Oui.
J'espère que t'es fière. Attends que je te dise 5 choses incroyables, tu sais.
Oui, oui, oui.
Elle a une espèce de volonté de dépassement et d'étonner et de... Et tu sais, devine quelle chose folle j'ai faite, Bottine.
Oui. Mais je pense que Bottine aussi s'est trouvée être une interlocutrice par défaut. Je suis toujours enfant unique. Il y a peut-être de ça aussi,
oui.
Tu sais, de pas avoir de frère ou de sœur avec qui partager mes petits secrets d'enfant. Sans doute que mon journal a pris ce rôle-là et oui. s'est incarné avec un nom.
Il est devenu un déversoir.
Oui, mais vraiment une interlocutrice.
Oui, oui.
C'est fait qu'il y a peut-être... ça se peut que ce soit de la psycho à deux sous, mais il y a peut-être de ça d'en faire un personnage. Mais sans doute qu'effectivement, il y a des liens à tisser entre ce journal-là puis la grande boucle que ça a pu tracer avec Le Grand Galop. Je me suis permis... en écrivant Le Grand Galop, d'aller dans des zones plus personnelles. Je me suis moi-même... je me suis servie à même mes propres souvenirs, ma propre façon d'imaginer l'avenir quand j'étais adolescente. Et,
particulièrement le passage, j'imagine, vers la fin où ta narratrice a une voix d'enfant.
Oui, ben ça, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est qu'autant pour l'adolescente, pour l'adulte, j'ai pioché un peu dans mes souvenirs pour m'inspirer pendant l'écriture. Mais pour ce qui est du dernier chapitre où je donne la parole à mon personnage qui est enfant, qui a 10 ans, ben là, j'ai carrément pigé dans mon journal. D'ailleurs, la phrase que j'ai lue plus tôt, une des pires choses, oui, aujourd'hui, je m'ennuie, c'est une des pires choses de la vie. Ça m'a tellement fait rire que je pense que je l'ai reprise intégralement dans mon roman. Donc, pour retrouver ce ton-là de l'enfance...
L'intensité du drame de l'enfance.
Oui, puis ce côté virevoltant-là, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment le plus fascinée en relisant mon journal. C'était la rapidité avec laquelle je passais d'une émotion à l'autre, de dire que ma mère comprenait rien, qu'elle était méchante, que je la détestais, mais que dans le fond, c'est vrai qu'elle faisait beaucoup de choses avec moi, puis qu'elle m'écoutait quand j'avais de la peine, puis que dans le fond, c'était la meilleure mère. Et tout ça en une page. Les amours aussi.
J'ai
Olivier,
cassé.
Que j'aime à la folie, puis la page d'après... bon, mais je suis avec Christian. Donc, ça, j'ai renoué avec ça. Je m'en rappelais plus. Et encore, justement, cette fameuse question des souvenirs.
Ouais.
Ce que j'ai pu distiller avec le temps, ce que je me rappelle de mon enfance versus ce que moi-même, enfant, j'en pensais, ben, c'est pas du tout la même
ouais.
chose. Qu'est-ce qui est vrai? Est-ce que... Puis même en écrivant dans mon journal, toute personne qui a déjà tenu un journal sait que...
Il y a une mise en scène.
Il y a une mise en scène. On choisit ce qu'on raconte. Ouais. Rarement, on va raconter...
Les
bouts de plates, voire même les bouts heureux. Quoique enfant, peut-être plus.
Ouais.
Mais plus on vieillit, le journal, c'est la soupape.
Ouais, ouais.
Donc, on va raconter le désespoir, les drames. Puis en se relisant, si je relis mes journaux d'adolescente... On dirait que j'ai eu une adolescence
ouais.
tragique et que c'était horrible. Et j'étais toujours à deux doigts... du suicide, parce que, bien sûr que je racontais pas les journées où ça allait bien à l'école, puis où j'avais plein d'amis, et tout était pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Donc, il y a le filtre du souvenir, le filtre de l'écriture, c'est des couches et des couches qu'on met sur la réalité, puis quelle est-elle, finalement? Je sais pas si on peut en dégager une seule. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Et c'est là mon intérêt.
Morale de cette histoire, gardez vos carnets.
qui, s'ils transfigurent la réalité à travers le filtre de l'écriture, n'en sont qu'un reflet plus juste de qui vous étiez au moment dit. Un extrait du Grand Galop pour boucler ce segment sur les inspirations, avant d'en venir dans le prochain, aux techniques d'écriture de Marie-Noëlle. Un après-midi à la récréation, c'est plus fort que moi, et je le dis à Lily. Moi, plus tard, je vais être chanteuse. Et elle s'écrit « Moi aussi !» avec plein de « i » à la fin. Elle est tellement fébrile que ça attire l'attention des autres filles de la classe qui veulent savoir ce qui se passe. Lily leur dit que plus tard, on sera chanteuse. Et elles aussi, c'est ce qu'elles veulent. Elles deviennent surexcitées. Avant que je comprenne ce qui arrive, nous sommes en train de nous choisir un nom de groupe et de répéter une chorégraphie. Pendant que je me fais aller la jambe à droite et le bras à gauche, je me dis qu'il faudra vite me trouver un nouveau rêve et le garder pour moi seule, le coucher avec les autres dans mon cahier à spirale. C'est amusant de faire des chorégraphies pendant la récréation, mais mon avenir à moi ne peut absolument pas être le même que celui de tous les autres. Quelle déception ça serait. À partir du moment où on se met à écrire, où on décide, j'ai un projet, je veux que ça soit un livre, je veux que ça soit un roman, celui-là, je vais l'emmener jusqu'au bout. Quand on est Marie-Noëlle Gagnon, est-ce qu'on prend un nouveau fichier Word? Est-ce qu'on ouvre un carnet? Est-ce qu'on s'en va se promener sur le Mont-Royal jusqu'à ce que les éléments prennent forme? C'est quoi les premiers moments?
Les premiers moments, c'est assez... Ça varie pas mal... Parce que enfin, le premier roman, L'hiver retrouvé, ça a été un texte que j'ai écrit à la fin du cégep, initialement, pour lequel j'avais participé à un concours quelconque, je ne me rappelle plus. Donc, ça avait été vraiment une nouvelle, mais dont les personnages me plaisaient assez pour qu'ensuite je décide de continuer essentiellement à l'ordinateur, un fichier Word sur lequel je reviens périodiquement. Mais beaucoup trop périodiquement. Donc, à l'époque, pour attaquer ma tendance à faire de la procrastination, je m'étais inscrite à la maîtrise en création littéraire, ce qui était vraiment ma façon de prendre le taureau par les cornes et de me forcer à écrire. Ça a fonctionné. Donc, dans le cadre de la maîtrise, j'ai terminé mon manuscrit. Après, Le Grand Galop, ben, c'était vraiment un flash... Avant, ma séparation, j'ai eu l'idée d'écrire sur tout ce qu'on se construit autour d'un couple, tout ce qui est d'imaginaire et de l'avenir qu'on s'invente. J'ai sans doute écrit quelques pages dans mon nouveau fichier Word. Et puis là, je me suis séparée.
Comme et quoi, c'est devenu très vrai.
Ouais, la fiction la réalité rattrape la fiction. Puis ça s'est échelonné. J'ai toujours un carnet dans lequel j'écris parfois. Après, je retranscris à l'ordinateur. Mais j'ai absolument pas de technique ou de rigueur, ce qui est vraiment mon grand problème. En fait, parfois, je me mets des routines, ce qui m'aide grandement à avancer mes projets. Mais il y a des grandes périodes de temps où je laisse les romans de côté. Donc, ça se construit vraiment par petites bouchées au fil du temps. Le Grand Galop, à un moment donné, j'ai donné une grande claque pour le terminer parce que sinon, j'y serais encore. Puis là, le nouveau projet, c'est un fichier Word. J'ai toujours un plan. Au début d'une histoire, je sais assez précisément ce que je veux raconter. Je connais le point de départ, le point d'arrivée.
La chute, le grand moment final,
c'est toujours assez clair dès le début.
Est-ce qu'il va y avoir des fourmis ou pas? On le sait à la première ligne.
Quand même. C'est quand même assez précis. C'est le parcours pour aller du point A au point B qui demeure plus nébuleux, mais j'ai quand même souvent une idée. J'ai souvent un plan. Je sais à peu près où je m'en vais. Puis ça, je vais... généralement le noter dans un carnet.
Est-ce que tu fais des fiches de personnages?
Ben là, dans le cas de mon nouveau projet, oui. C'est la première fois que je le fais. Dans mes autres romans, c'est des personnages que j'ai volontairement gardés assez flous.
Insaisissables.
Oui, mes personnages souvent vont se voir attribuer une caractéristique ou physique ou deux. Mais on sait jamais exactement quel âge ils ont, de quoi ils ont l'air. Et même chose pour les lieux. Pour moi, c'est un univers assez québécois parce que les quatre saisons très marquées sont présentes, mais jamais une question d'une ville ou d'un lieu précis. Tandis que là, mon nouveau projet, s'inscrit vraiment dans une réalité historique. La toile de fond, c'est le cirque américain au début du 20e siècle. Donc, nécessairement, là, c'est une toute autre façon de travailler. Il faut vraiment que je vérifie les dates, que je lis énormément sur le cirque depuis un an. Mais donc, j'ai pas la prétention d'écrire un roman sur le cirque. Sauf que c'est un univers que j'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, allez, je me garde, je situe mon histoire dans le cirque. Là où c'est un cadeau empoisonné, c'est que ça m'oblige à beaucoup de lectures, une rigueur dans l'organisation de mon histoire que je ne me suis pas imposée avant. Donc là, je suis en terrain inconnu.
Le fin fil entre la recherche et la création, cette avancée en suspension, Marie-Noëlle connaît bien. Je passe la parole à sa narratrice du Grand Galop. De retour à la maison, j'ouvre le dictionnaire et je découvre que, contrairement au funambule qui se perche haut dans les airs, le fil de feriste avance sur un fil d'une hauteur maximale de 3 mètres au-dessus du sol. Cela me semble ridicule. Je serai funambule. Dire que j'ai hâte de lire son roman circassien serait un euphémisme.
Ton premier roman, tu disais que tu l'as écrit donc au cégep, que tu l'as terminé ensuite à la maîtrise. Le Grand Galop, tu travaillais déjà comme éditrice depuis quelques années quand tu en as entrepris l'écriture. Oui. Et là, d'autant plus avec ce nouveau projet dont on ne doit pas nommer le nom. Et j'imagine que ça influence quand même ta façon d'aborder l'écriture ou ta relation avec l'éditeur. Est-ce que tu dirais que ça joue? Qu'est-ce que t'attends de ton éditeur?
Bien, j'attends du recul. Puis ça, ça peut être vrai d'un éditeur, mais ça peut être vrai d'un très bon lecteur aussi.
Comme t'en as.
Comme j'en ai, j'ai la chance d'avoir une première lectrice qui est très critique, mais en qui j'ai assez confiance pour recevoir ces critiques-là. Mais dans mon cas, ma première lectrice fait presque un premier travail d'édition, si on veut. Puis ce travail-là d'un lecteur extérieur ou d'un éditeur permet vraiment de se décoller le nez. Quand on écrit, on n'a pas de recul, on est plongé dans notre histoire. Pour nous, il y a des choses qui sont absolument limpides, mais qui ne le sont pas quand on est à l'extérieur de nos têtes. Donc, l'éditeur va pouvoir pointer là où il y a des failles, là où il y a des choses à retravailler. Parfois aussi, on a une super idée. En fait, on s'imagine qu'on a une super idée, mais c'est un embryon de super idée, puis on a besoin de quelqu'un pour nous pousser dans le derrière et de nous dire, ben continue, va ailleurs. Et à mon sens, c'est essentiel pour amener le roman à un résultat optimal.
Est-ce que toi, ton conjoint, a accès à tes projets d'écriture? Est-ce qu'il fait partie de ton cénacle de lecture? Est-ce qu'il y a même accès avant? En parles-tu à table pendant que tu es en train d'écrire?
Non, pas vraiment, mais encore là, je dois me remettre dans le contexte. J'écris pas souvent. Et donc, n'écrivant pas souvent, je suis pas habitée de la même façon par mon texte. Donc, mon nouveau projet sur lequel je travaille de façon épisodique, par-ci, par-là, j'en ai parlé à personne. Vous avez une primeur. Mais tandis que le Grand Galop, ben là, c'est arrivé plus tard. C'est vers quand j'étais assez avancée. Puis je suis pas mal certaine que je vais faire la même chose avec les Trois Grâces.
Scoop! Les Trois Grâces, quel titre magnifique, qui rime avec allégresse, abondance, splendeur. C'est vraiment très généreux à Marie-Noëlle de nous offrir ça, surtout sachant que l'écriture du manuscrit est toujours en cours. Il est encore possible qu'une tournure lui fasse un croche-pied dans le détour et que le titre change du tout au tout d'ici à ce que le projet de roman atterrisse dans une maison d'édition. Mais reprenons.
Et donc, ce nouveau projet, je me vois mal le faire lire autant à mon amoureux qu'à ma première lectrice avant d'être très avancée. Comme auteur, il faut être solide sur nos pattes pour recevoir des commentaires. comme éditeur aussi, il faut être solide sur ses pattes pour formuler ces commentaires-là en sachant qu'ils vont peut-être être pris en considération et vraiment transformés.
Influer le parcours d'une œuvre.
Oui, absolument. Mais tout en sachant que c'est quand même l'auteur qui a le gros bout du bâton, c'est son roman. Donc, comme auteur, avant de se lancer, avant de donner son texte, je pense qu'il faut quand même, pour moi en tout cas, je me vois mal le donner par petites bouchées. C'est une grosse pointe de tarte pour que je sois capable après de décider comment ça évolue.
Est-ce que tu as une carotte? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait avancer, qui te fait tendre vers le fil d'arrivée?
Bien, c'est un rêve. On parlait de rêve au tout début. C'est un rêve depuis aussi loin que je me souvienne, publier un roman, publier des romans. Pour moi, ça reste quelque chose d'extraordinaire. J'ai vécu autant d'émois au premier qu'au deuxième, puis à chaque fois qu'on reçoit au bureau les boîtes de livres des auteurs qui publient chez nous, par procuration, je vis une espèce de petite euphorie. Je trouve ça formidable, ce geste-là de publier un livre, de travailler si longtemps en solitaire et ensuite en équipe pour faire un livre, pour produire de la littérature. Je trouve ça tient du merveilleux pour moi. Et c'est très certainement à ce jour la chose qui me rend la plus fière dans ma vie. Mais je pense qu'autant pour moi-même que pour les auteurs avec lesquels je travaille, je constate que, heureusement ou malheureusement, ça, à chacun d'en juger, c'est pas aussi facile d'écrire un livre. C'est pas parce que... Puis ça, c'est la facette triste de la chose. Je le vois dans la quantité de manuscrits qu'on refuse, qui sont bourrés d'idées extraordinaires. Il y a des gens qui ont des idées formidables, mais qui ne sont pas capables de trouver les mots pour vraiment en faire des textes forts. À l'inverse, il y a des gens qui ont des idées beaucoup plus simples, mais qui ont une plume fantastique qui rendent ça un pur bonheur de lecture. Donc pour moi, oui, c'est sûr que l'idée est importante, mais après, c'est de gosser le bout de bois, c'est de faire en sorte qu'à l'écrit, on réussisse à transformer cette idée-là en littérature.
On pourrait reprendre à propos de la littérature les mots qu'Alessandro Barrico prête à son narrateur dans le magnifique Novecento pianiste que Chic Marie-Noël affectionne. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser parce que si tu danses, tu ne meurs pas. Marie-Noël. Marie-Noël de 2017.
C'est moi.
Si tu pouvais glisser subrepticement la nuit, telle une fée des dents, un message dans le journal de Marie-Noël de 1991, qu'est-ce que tu lui dirais?
Ah, je lui dirais de relaxer. Relax, petite Marie-Noël. Sois moins tragique. Ouais, j'avais une fibre tragédienne un peu trop exacerbée pour mon propre bien. Je m'en faisais beaucoup, je m'en faisais beaucoup, beaucoup avec certaines choses. J'étais très intense, puis ça m'a...
Note aux auditeurs, Marie-Noël est toujours intense.
C'est vrai! Oui, je pense que c'est bien vrai, mais pas de la même façon. Ouais. Pas de la même façon. Je pense que... Quand je suis mélodramatique, c'est que je joue à être mélodramatique, oui. Alors que enfant, voire même adolescente, j'étais mélodramatique. Il n'y avait plus de jeu. Je pense même qu'en fait, à l'adolescence, j'ai certains de mes amis qui ont entrepris de se moquer un peu de cette façon que j'avais d'être mélodramatique. Salut Julien. Qui m'ont fait voir ce côté, qui m'ont fait prendre conscience de cette facette-là de ma personnalité. Et qui m'ont donné envie de me parodier moi-même, de m'amuser avec cette propension-là que j'ai à être vraiment intense. Ma petite Marie-Noël, ouais, je dirais de prendre les choses un petit, avec un petit peu moins de un petit peu moins d'ardeur, un petit peu moins de sérieux pour être une enfant puis une adolescente un peu plus légère.
Est-ce que tu dirais que l'écriture t'a transformé un peu à ce point de vue-là en te donnant justement un lieu de tous les mélodrames, de tous les, toutes les intensités du monde?
Je pense que ça m'a certainement servi d'exutoire. Ça a été une façon pour moi de sublimer ces moments de tristesse-là, surtout à l'adolescence. Oui. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle plusieurs adolescentes et adolescents écrivent et aiment la poésie. Mm-hmm. Ces espèces de grandes émotions et une époque où on a l'impression que personne jamais n'a vécu des choses aussi difficiles et incroyables que nous. Puis je pense que déjà à l'époque, assez jeune dans mon adolescence, je faisais vraiment des effets de style dans mon journal. Je travaillais ma façon de raconter mes drames. Donc, je pense que d'une certaine façon, ça me permettait d'en tirer quelque chose de beau.
Puis dans ce sur quoi tu travailles en ce moment, où tu as trois personnages qui mènent l'histoire, sur qui repose l'histoire, est-ce que tu as l'impression que tu peux aller ailleurs en sortant d'un jeu, en sortant d'un personnage qui se débat avec lui-même, en ayant plutôt trois regards? Est-ce que ça te libère de certains drames intérieurs que ton personnage autrement a exploré?
Je dirais pas que c'est une libération. Je le vois davantage comme un défi de vraiment essayer d'incarner des personnages qui se détachent complètement de moi. Souvent, mes personnages sont pas autobiographiques, mais il va souvent y avoir une chose, un élément qui va me servir de point de repère.
D'ancrage.
Donc, je me dissémine un peu dans mes personnages. Dans ce cas-ci, c'est vraiment, en fait, L'idée, c'est de dépeindre ces trois personnages-là de leur propre point de vue et du point de vue de chacune d'elles. Mm-hmm. J'ai été fascinée. Ce n'est pas un roman sur ma famille, mais j'ai cette dynamique-là autour de moi avec ma mère, ma tante et ma grand-mère. Et par la force des choses, je me trouve à être parfois la confidente de l'une ou de l'autre. Et les mêmes souvenirs, on y revient, mm-hmm. les mêmes souvenirs où les mêmes individus sont décrits de façon vraiment différente de l'une à l'autre. Puis encore là, ça me pousse à me poser encore une fois toute cette question-là de vérité. Mm-hmm. Qui a la vérité? Est-ce qu'on se perçoit nous-mêmes de la façon la plus juste? Ou au contraire, est-ce que c'est les gens dont on est le plus proche qui nous voient le plus clairement? Nous-mêmes, en plus, notre perception change. Je pense que je te racontais déjà, Myriam, que l'été dernier, mon grand-père est décédé et j'ai dû fouiller dans les photos pour faire la petite rétrospective oui. photo qu'on projetait au salon funéraire. Et depuis quelques années, pour différentes raisons, souvent quand ma grand-mère parlait de mon grand-père, c'était assez triste. Elle parlait souvent du fait que ce serait pas nécessairement mariée avec lui si elle avait vraiment eu le choix. Puis elle dépeignait vraiment des facettes plus sombres de son mariage qui m'ont laissé penser que finalement elle avait été plutôt malheureuse. Puis là, finalement, ben, je me suis mise à écumer tous les albums photos et j'ai trouvé une quantité folle de photos de mes grands-parents enlacée, mm-hmm. hilar, mon grand-père qui bécote gaiement ma grand-mère, qui a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, ben bon, tu sais, est-ce que cette femme-là, quand elle avait 40 ans, posait un regard sur sa vie que la femme de 80 aujourd'hui voit plus du tout de la même façon? Qui a raison? Est-ce que c'est elle aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, qui pose le regard le plus lucide sur toute sa vie, mais pourtant, quand elle avait 40 ans de moins, elle avait quand même une autre vision complètement de sa propre existence. Qu'est-ce qui est le plus juste dans tous ces détails-là entre, entre nos propres perceptions de nous-mêmes, des autres, de nos souvenirs. Ça me fascine sans fin.
Ça peut être très confrontant d'être envoyé à la perception qu'on avait de nous-mêmes à une autre époque, qu'on ne croit plus aujourd'hui. Est-ce que tu oserais faire lire à ta fille éventuelle des journaux de ta jeunesse pour que vous en parliez?
Non, j'aurais trop peur qu'elle serve de ça contre moi en me disant « Toi aussi, maman, regarde, à 9 ans et demi, tu fumais du tabac exporté, le pire tabac. »
Le plus fort.
Le plus fort tabac. Tu niquais devant Marie-Ève Larrain. Non, les journaux, franchement,
Là, c'était une exception. Là. Tu l'as ouvert pour nous.
Je l'ai ouvert pour vous, puis je dois même dire qu'en me relisant... En relisant d'autres passages et d'autres textes écrits à la même époque, je me suis choquée moi-même de certaines choses. Je me dis, déjà à cet âge, mon Dieu, je connaissais ces mots et j'avais ces pensées.
Puis, tu as vu, évidemment, mais c'est même toi qui m'as fait découvrir la pureté de l'enfance.
Oui, c'est formidable et ça met le doigt justement sur, encore une fois, sur la façon dont on a de se rappeler... De notre enfance. Oui. Je veux penser que ma fille imaginée sera plus pure et plus heureuse que moi. Après, je pense que en filtrant, j'espère vraiment avoir une relation avec ma fille qui me permettrait d'ouvrir mes archives puis de rire un bon coup avec elle. J'ai quand même développé un bon sens de l'autodérision. Donc, si j'ai pas l'impression que je la précipite...
Dans une voie dangereuse.
Ah oui, exact. Oui, je pense que je voudrais bien lui faire lire. Mais encore là, puis ça, c'est une autre chose. J'aurais ô combien envie de partager ce genre de choses-là avec mes enfants. Mais peut-être que mes enfants vont s'en foutre. Peut-être que mes enfants... Je me rappelle avoir... une amie au secondaire dont le père était prof à notre école, puis c'était un prof très aimé, puis j'avais appris à un moment donné qu'il avait publié un roman, et j'étais allée me le procurer, je l'avais lu, puis c'était pas très bon, mais j'avais appris en plus par la suite que sa fille ne l'avait pas lu, et ça m'avait complètement dépassée.
Qu'est-ce qui va arriver si tes enfants veulent pas lire tes livres?
Bien, il va falloir que je mette ça dans ma pipe puis que je l'accepte. Je pourrai jamais...
Tu vas pas leur en faire une version édulcorée comme Histoire du soir dans leurs jeunes années, pour être sûr. Juste pour être sûr.
Non, je pense que je ferai pas ça. Je vais sans doute leur lire Petit Panda, Le Jaune. Mais non, je pense que je vais croiser les doigts que ça les intéresse. Puis si ça les intéresse pas, ben. Voilà, c'est la vie.
Non, mais je pense que le prochain roman est une garantie. Il n'y a aucun enfant qui refuse d'aller au cirque.
C'est vrai. En même temps, vont-ils lire ça quand ils sont enfants?
Ah, ben je ne sais pas, parce que moi, je suis peut-être plus une enfant, mais j'ai très hâte de lire ce prochain roman.
Ben j'ai bien hâte de l'écrire.
Vous l'avez entendu, revenir sur les rêves et grandeurs de l'enfance ensemble nous a bien fait rire. Ça n'en est pas moins une démarche sérieuse, ce questionnement de la mémoire pour en extraire de l'art, et c'est quelque chose que Marie-Noëlle fait admirablement bien. Dans cet épisode, vous avez entendu des extraits du journal de Marie-Noëlle Gagnon, œuvre inédite à ce jour, ainsi que des extraits de son roman Le Grand Galop et de son album Petit Panda préfère le jaune. Pour en savoir plus sur ses projets publiés aux éditions Québec-Amérique, consultez sa fiche d'auteur sur le site québec-amérique.com. Faut bien commencer quelque part est une production des éditions Québec-Amérique et est enregistrée devant public dans notre café littéraire chez l'éditeur, situé sur la rue Saint-Hubert, à Montréal. À la production et à la technique, mon collègue Philippe Collard. À l'animation, Myriam Caron-Belzile. Le thème musical de l'émission est l'œuvre de Adriana Crickle. Et les autres pièces que vous avez entendues sont des compositions de Puddington Bear. Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un commentaire sur iTunes. Consultez la page du café sur Facebook pour connaître la date de captation et le thème de notre prochain épisode.
Salut, je m'appelle Nathaniel. Je viens vous présenter un café qui s'appelle Chez l'éditeur. C'est un endroit où on peut prendre un café, un chocolat chaud, une soupe, Mais, bah, moi j'aime mieux les biscuits et les chaussons aux pommes. C'est un endroit où on peut regarder et même acheter des livres. On peut même croiser des écrivains et des éditeurs. On peut aussi assister à des ateliers, des conférences et même des rencontres avec les auteurs. L'adresse est le 7240 rue Saint-Hubert à Montréal et les heures d'ouverture sont dès 7h la semaine et 9h la fin de semaine. Merci de m'avoir écouté. Bye!